livre. Donc on est très influencé par le titre. Et le titre de l'Apocalypse, en français, ça veut dire catastrophe effrayante qui évoque la fin du monde. Donc vous prenez le livre de l'Apocalypse, oui.
Ça veut dire dévoilement aussi.
Ah, attends, tu vas en venir. Mais là, tu vas en venir, tu m'as grillé. Mais, je vais te dire le mot Apocalypse tel qu'il est compris par nos citoyens, par nos produits. D'ailleurs, à chaque fois qu'on va voir des films sur l'Apocalypse, ça va être le truc catastrophe de partout, etc., etc. T'as grillé mon truc, mais j'y viens. Voilà, mais alors, ce livre, en anglais, il est traduit Révélation. Voilà. Ce qui, pour moi, change beaucoup de choses. Si avant de prendre ce livre, si je l'ouvre en lisant le titre Révélation, ou si je l'ouvre en voyant Apocalypse, je vais réagir différemment en ouvrant ce livre. L'objectif de ce livre, vous ne serez peut-être pas d'accord avec moi, ce n'est pas grave, vous prierez, puis le Seigneur inspirera toutes choses, hein. Ce n'est pas moi qui ai la vérité, c'est le Seigneur qui a la vérité, et c'est l'Esprit Saint qui parle en chacun d'entre nous. Voilà, si on est bousculé, c'est une bonne chose, c'est-à-dire que l'Esprit veut nous parler. Donc, l'objectif de ce livre n'a pas pour objectif unique de nous annoncer la fin du monde, mais aussi de nous instruire et nous révéler des choses cachées pour nous encourager à annoncer l'Évangile. Les chrétiens du premier siècle, qui étaient persécutés, mais pas comme nous, hein, ça n'a rien à voir, hein, torche humaine, fosse aux lions, crucifiés dans le cirque, décapités, bon, prenez la liste des 12 apôtres, mettez sur Google pour savoir comment ils sont morts, et puis vous aurez un aperçu des persécutions des premiers chrétiens. Et ces premiers chrétiens, ils avaient besoin d'encouragement. Ils avaient besoin d'être encouragés à ne pas baisser les bras et à annoncer l'Évangile. Et les chrétiens des premiers siècles ont beaucoup puisé dans l'Apocalypse pour être exhortés, pour aller dans la fosse aux lions et continuer à prier et à chanter. Et si ces premiers chrétiens ont été encouragés par ce livre, j'aimerais moi aussi être encouragé par ce livre. Rappelons-le, alors je le rappelle, j'ai déjà fait, mais les premiers chrétiens ont été persécutés et mis à mort par l'Empire romain face à leur propre mort. Parce que leur propre mort était là, c'était imminent, ils le savaient. C'est d'être vachement angoissant, hein, quand on n'est pas chrétien, d'être enfermé, là, dans les cages du cirque, d'entendre les gens hurler dehors, et de savoir que dans 10 minutes, 15 minutes, vous allez être bouffé par des lions. C'est pas, ça doit être atroce. Et ces gens, ils avaient besoin d'encouragement. Parce que c'est horrible de savoir qu'on va être déchiqueté, qu'on va être torturé finalement, qu'on va être cloué sur une croix. Ces gens, ils avaient besoin d'encouragement. Et des gens avaient lu ce livre de l'Apocalypse. Et ils encourageaient ces gens. Et on a des témoignages, hein, qui racontent que ces gens chantaient dans la fosse aux lions. Et à un moment donné, l'Empire romain en a eu marre de voir ces chrétiens être bouffés. Et le peuple en a eu marre et a mis une fin au cirque. Parce qu'il n'y avait plus rien de drôle. Parce que les chrétiens chantaient et louaient le Seigneur. Et pourquoi ils l'ont fait? Parce qu'ils ont été exhortés, notamment par la Bible, mais par ce livre de l'Apocalypse. Alors oui, nos vies ne sont pas en danger. Mais face au découragement, et ça quand je discute avec certains d'entre vous, il y en a. Il y en a du découragement. Découragement parce que ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans cette église et puis vous vous dites, bon ben voilà, j'en ai assez fait. Voilà, je vais laisser la jeunesse faire les choses. Et on est découragé. Et puis la jeunesse, ça peut être aussi découragé par tant de choses. Alors pas par avoir peur de mourir, mais d'autres choses. Perdre peut-être des biens, etc. Je voyais le groupe scout, hein, qui avait un national, qui avait peur que la loi française ne durcisse et nous interdisse de nous réunir, que les scouts chrétiens puissent encore être là. Ils nous enlèvent la CAF, ils nous enlèvent plein de trucs, et y a cette crainte qui est là, et on s'encourage, on y va. Des découragements, il y en a de toutes sortes. Et nous ne devons pas tomber dans ce découragement. Donc nous avons besoin, nous aussi, d'être exhortés à annoncer l'évangile à Thiers, au Sarrais, à Saint-Rémy, et partout où nous sommes, même si cela doit nous coûter. Même si pour cela je dois rater un film, même si pour cela je dois sortir de mon lit, même si pour cela je dois passer toute ma journée debout, même si à la fin je vais tomber dans mon lit fatigué, eh bien je vais quand même annoncer l'évangile de Jésus-Christ. Donc comme je vous l'ai dit, durant mes prochaines prédications, nous allons lire et relire et encore relire ces chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse comme une exhortation à vivre une vie de piété devant Dieu. Et surtout pas comme des lettres qui sont là pour vous décourager et vous condamner. Et ça, j'en ai marre. Quelquefois, on utilise ces lettres-là aux églises pour condamner des églises. Ah ben toi, t'es tiède, ah ben toi, t'es comme ci, t'es comme ça. Oh là 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 là. Stop, stop. C'est pas le but de ces lettres. Hein. Dieu nous a pas mis une mitraillette dans les mains pour mitrailler nos frères et sœurs en Christ. Non. Ces lettres, elles sont là pour nous exhorter. Alors nous allons voir ensemble, dans plusieurs prédications, comment ces lettres peuvent être une exhortation pour chacun d'entre nous. Ces deux chapitres nous parlent de sept lettres envoyées aux sept églises. Donc vous voyez, vous avez sept colonnes. Si vous retournez de l'autre côté, vous avez à chaque fois la fin, parce que c'était trop, il y avait trop de texte, donc j'étais obligé. Voilà, donc sept lettres envoyées à sept églises. Dans l'Apocalypse, les chiffres ont des symboles, des significations. Il n'y a rien qui est mis au hasard. C'est pas parce qu'il avait juste fait sept lettres que du coup on en a sept. C'est pas dû au hasard, ce chiffre 7. Ça, c'est vraiment important. C'est pas parce qu'on a retrouvé que sept lettres. Non, non. C'est parce que il voulait sept lettres. Et pourquoi sept lettres? Parce que le chiffre 7 indique un tout qui est parfait. Que c'est... Ah, mais on dit de ne pas faire boum boum, ok. Que c'est la perfection, c'est parfait, l'aboutissement. Sept. Du coup, ces sept lettres, on doit les voir de façon verticale et horizontale. Verticale, comme une lettre qu'on lit, hein, du début à la fin. Et horizontale, et bien là vous voyez toutes les couleurs. En fait, elles n'ont pas été écrites comme ça, c'est pas sept lettres qui ont été écrites n'importe comment et puis qu'on a mis ensemble. Elles ont toutes la même structure. Au début de chaque lettre, il y a un petit texte qui annonce à qui cette église est adressée. Et encore, le nom des églises n'est pas anodin. Elle fait passer un message aussi. Ensuite, nous trouvons une description de qui est Jésus. C'est en bleu, c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Dans chacune de ces lettres. Donc c'est bien aussi de tous les prendre de façon horizontale, pour être exhorté. Ensuite, nous trouvons des compliments. Alors je crois que c'est en vert que je les ai mis. Et des reproches qu'on trouve en rouge. Bon, je ne vais pas être à fond dessus, mais même ces reproches, il y a une solution pour qu'en fait ces reproches elles se transforment en bénédictions à la fin de cette lettre. Mais bon. Ensuite, voilà, nous avons à chaque fois un appel à la repentance. Donc l'objectif premier, là, c'est pas de balancer des reproches aux gens pour les clouer et les condamner. Non, en fait, c'est une exhortation, tout simplement. C'est une exhortation. Si aujourd'hui tu vis comme ça, repens-toi. Et même là où il n'y a que du vert, on a même quelque chose où il dit attention. Voilà, attention. Tout se passe bien, mais attention, ça peut se passer mal. Sois prudent. Vous voyez vraiment, l'objectif de ces lettres, ce n'est pas de condamner les gens et de les rabaisser. Ensuite, nous avons un appel à écouter ce que dit le Saint-Esprit. À la fin de chaque lettre, alors ça c'est de l'autre côté, c'est du côté où il n'y a pas beaucoup de choses, voilà, on trouve les récompenses que Dieu donne aux vainqueurs. Donc on va avoir sept récompenses. Donc c'est là, c'est intéressant aussi de prendre ces sept récompenses, et pas de, à chaque fois s'arrêter juste à une seule récompense. Voilà. Donc, là j'ai fait une introduction un peu pour toutes mes prédications à venir. Et là, nous allons nous concentrer sur ce que ces lettres nous disent de Jésus. C'est ce qui est en bleu. Juste une petite parenthèse. La différence entre une étude biblique et une prédication, c'est que la prédication, elle est là pour glorifier Jésus et dire que Jésus est là pour toi, pour t'aimer. Et elle est centrée sur Jésus. L'étude biblique, elle peut être un petit peu décentrée, elle va aller sur plein de détails, etc. etc. Ce n'est pas mon but. On va pas faire une étude biblique. On va rester sur une exhortation qui parle de Jésus et qui, une fois que vous sortez de cette prédication, j'espère en tout cas, vous soyez exhortés et que vous avez envie de vous battre pour l'Évangile. C'est l'objectif. J'espère qu'il ne sera pas raté, mais il ne devrait pas. Et là aussi, en toute humilité, hein, j'ai fait ce travail avec une autre personne. Voilà. J'ai demandé à ma maman de travailler avec moi. Elle n'est pas du tout théologienne comme moi, mais moi ça me permet d'avoir un autre regard, d'avoir un regard d'une personne qui n'est pas théologienne, puis quelquefois elle me disait « Ah, ça va pas !» Donc j'écoutais. Quelquefois j'ai mis, quelquefois j'ai pas mis. Mais quelquefois c'est bien aussi dans nos réflexions d'avoir une autre personne qui nous permet de ne pas nous enfermer dans nos pensées à nous, mais de toujours nous ouvrir à la pensée de Dieu. Voilà. Donc, on va commencer donc de droite à gauche sur vos feuilles. Comme en français. Voilà. Donc on va commencer par le premier. De gauche à droite, pardon, je suis devenu juif. Je me demande pardon, mais moi y compris, c'est l'essentiel. Donc je lis, vous pouvez entrer dans la même traduction. À l'ange de l'église qui est à Éphèse, écrit : Ainsi parle celui qui tient les sept étoiles dans sa droite, qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. C'est pareil, les étoiles et les chandeliers symbolisent quelque chose. C'est pas juste les étoiles de Dieu qui sont dans ses mains, puis les chandeliers de l'autre. Il y a un symbolisme derrière. Et les étoiles, le symbolisme, eh ben, ce sont les anges. Okay? Et c'est marrant, on est au début de la lettre, comme quoi il y a un tout. Hein. Eh ben, ces anges, ils sont aussi envoyés à l'église pour annoncer ces choses-là. Elles sont envoyées pour donner un message. Dieu utilise les anges aussi comme des messagers. Donc, sept, c'est-à-dire pas, ça ne veut pas dire qu'il n'a que sept anges une fois de plus. C'est-à-dire que c'est parfait, c'est la perfection. Il détient autant d'anges qu'il le faut, c'est la perfection qu'il a. De l'autre côté, il y a les chandeliers. Et ces chandeliers représentent l'Église. Les églises, pardon. Et le chiffre 7, toujours la même chose, je vais vous faire comme un clou dans la tête, représente toujours la perfection et l'achèvement. Les anges dans sa main droite. C'est Dieu qui dirige les anges. C'est Dieu qui est au-dessus des anges. C'est lui qui les envoie pour nous parler. Quand nous nous trompons de chemin, Dieu envoie des anges. Dieu envoie des choses aussi dans nos têtes pour nous avertir des choses. Ainsi, cela doit nous rassurer. Nous ne sommes pas seuls. Dieu dirige toutes choses pour nous aider à rester sur le bon chemin. Et chaque mot est important, j'ai bien marqué « aider » à rester sur le bon chemin. Pas à nous forcer, mais à nous aider. Donc, c'est-à-dire que si j'ai plus envie d'être sur ce chemin, vous allez quitter ce chemin. Mais Dieu va vous aider à y rester. Mais il ne vous force pas. Et ça, c'est important. Comprenons bien que le but de ces lettres envoyées aux sept églises n'est pas de condamner les églises, mais de leur donner la possibilité de se repentir et de changer de façon de vivre pour être conforme à l'Évangile, et ainsi mieux vivre dans la paix du Christ. Là, c'est cette lettre, en fait, c'est, on n'est pas à la fin du monde, on n'est pas là devant où Jésus est en train de séparer les moutons des boucs. Là, ces lettres, elles sont adressées à des êtres vivants. pour nous aider, nous exhorter à aller sur le bon chemin et justement à ce que quand nous soyons morts, nous soyons du bon côté. Donc, moi, c'est vraiment important. Lisons ces lettres dans une certaine bienveillance. Ce n'est pas un Dieu méchant qui écrit ces lettres, mais c'est un Dieu rempli d'amour qui veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Voilà. Faisons vraiment la différence entre l'exhortation à rester dans le bien et la condamnation qui condamne parce que tu es dans le mal. L'exhortation à rester dans le bien, on va dire ce qui n'est pas bien, mais... Oui, une résonance. Mais dans le but... Dans le but de progresser dans le chemin de sanctification. Alors que la condamnation, elle est méchante. Je te condamne, t'es mauvais, t'es nul, t'es condamné, t'es foutu, tu vas en enfer. Vous voyez, il y a vraiment une différence. Et quelquefois, le diviseur, le diable, ben, il fait que vous entendez une exhortation, et ben, il est en train de vous juger. Tu vois, il te juge. Puis en fait, non, la personne n'est pas en train de te juger, elle est en train de t'exhorter à être sur le bon chemin. Donc faisons vraiment attention entre les deux. Et là, vraiment, le but de ces lettres, c'est de nous exhorter à être sur le bon chemin. Ce que Jésus veut, ce n'est pas que ces églises soient condamnées, mais qu'elles puissent être sauvées par lui.
Amen.
Jésus a un cœur d'amour. Ne passons pas à côté. N'écoutons pas cette petite voix du diviseur qui dit « Mais Dieu est méchant, Dieu condamne, Dieu dit ceci, cela, qui est pas... » Non. Écoutez la voix de Jésus. « Je t'aime, mon enfant, et je veux le meilleur pour toi. Aujourd'hui, tu t'es trompé de chemin. Écoute ma voix pour que tu puisses revenir sur ce bon chemin. » Et comme on a dit au pardon des péchés, une fois que tu es sur le bon chemin, tout est blanchi. Dieu ne tient plus compte de ce qui est passé, mais de ce qui est présent. Donc ces anges que Dieu a dans sa main, ces anges n'ont pas pour objectif de nous faire du mal, mais de nous faire du bien. Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Et dans l'autre main, nous avons ces chandeliers, ces églises, parce qu'au final, on a beau dire... C'est Dieu qui est le chef de toutes ces églises. Des fois, il y a des hommes qui disent « C'est mon église, c'est la mienne. » En fait, non. Ben non, tu te gourres. Les églises appartiennent à Dieu. Et, semblable à un chandelier, quel est le rôle d'un chandelier? Le rôle d'un chandelier, c'était aussi d'éclairer. Et, dans notre texte, plus loin, je ne sais plus exactement lequel, il est marqué que Jésus marche au milieu de ses chandeliers, et nous avons un endroit aussi où il est marqué que les pieds de Dieu sont semblables à du bronze précieux. Et en grec, alors je fais un peu de grec, hein, mais ce mot, mais je ne vous le dis pas, je vous dis juste la définition parce que mon but est d'exhorter, ce mot qui décrit les pieds est assez rare, il s'agit d'un alliage de plusieurs métaux qui brillent. Donc en fait, ces pieds de Dieu, eh ben, s'il y a de la lumière, ils brillent. Et pour moi, le but des églises, ce n'est pas juste de briller, mais c'est de faire briller ses pieds pour être lumière de Dieu, pour être témoin de Dieu dans ce monde. Le but de l'église, elle n'est pas juste de dire ben, « Moi, je forme une église, je suis dans ma bulle, alléluia, c'est bien. » C'est vrai que c'est bien d'être dans une bulle, hein. Moi, ces temps-ci, je me dis, alléluia, merci d'être dans cette bulle bienveillante. Mais ce n'est pas ça le but. Le but de l'Église, c'est d'annoncer l'Évangile et de sortir de cette bulle, d'être éclaboussé par certaines choses pour annoncer cette parole à ceux qui ne l'entendent pas. Ces pieds sont aussi très intéressants. Parce que pour moi, Dieu est infini. Et l'homme est fini. On est d'accord? On ne peut pas connaître toute l'infinité de Dieu. On peut en connaître juste une partie, et la partie la plus importante que Dieu nous donne. Et pour moi, voilà, ses pieds. C'est aussi de l'humilité. À se dire, je ne peux pas non plus tout montrer de Dieu, parce qu'il est infini, et toute mon intelligence ne peut pas tout comprendre. Mais juste une partie. Mais déjà, c'est génial. Et Dieu marche au milieu de ces chandeliers. C'est-à-dire que ces chandeliers ne sont pas seuls. Là aussi, avoir un encouragement. Ce n'est pas des chandeliers qui ont été jetés dans un coin tout seul, débrouille-toi. Non, non. Dieu est là et il veille sur ses églises. Je le redis, l'objectif d'une église n'est pas de se replier sur elle-même, mais de briller de la lumière de Dieu dans le monde. Et je cite Matthieu 5, verset 15, « On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Je trouvais vraiment ce verset beau et qui redit en plus cet exemple de l'église. Si nous sommes une église qui cache ses lumières, ben demandons pardon tous ensemble. Parce que ce n'est pas le but de l'Église. Le but, je le redis, c'est d'être témoin de Jésus-Christ. On va passer à la deuxième lettre. Apocalypse 2, verset 8. À l'ange de l'Église qui est à Smyrne écrit, « Ainsi parle le premier et le dernier, celui qui fut mort, mais qui est revenu à la vie. » Jésus est celui qui a été crucifié et qui est ressuscité. Ainsi, nous le savons pour nous, il a vaincu la mort. Il peut donner la vie à qui il veut. Et ça, c'est super important. Quand vous voyez la mort en face de vous, ces premiers chrétiens qui voyaient la mort en face d'eux, qui savaient que dans 10 minutes, ils allaient mourir, ils savaient que ça n'allait pas s'arrêter là. Parce que Jésus est revenu à la vie et qu'il est la vie. Et un autre voilà, texte qui le résume bien, en Jean 11, verset 25, Jésus lui dit, « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Ainsi, les premiers chrétiens étaient rassurés par ce passage, car même si devant eux, ils voyaient leur propre mort, ils savaient que ce n'était pas la fin. Je pense que c'est pareil pour nous, quand il y a des difficultés devant nous, devons savoir que Dieu détient toutes choses. Il est le premier, il est le dernier, c'est-à-dire il détient toutes choses. Cela doit nous rassurer dans l'épreuve. On doit être rassuré. Dieu est le dernier et le premier. Il a tout dans ses mains. Ne crains point. Crois seulement et annonce l'Évangile. Alors on va passer à côté, parce que sinon je vais avoir des prédications à 1 heure. Apocalypse 2, 12. À l'ange de l'Église qui est à Pergame écrit, « Ainsi parle celui qui a le glaive acéré à deux tranchants. » Voilà, ça va être un petit peu plus costaud. Le glaive ou l'épée, c'est pareil, il y a un symbole derrière, représente la parole de Dieu. Elle est à double tranchante. Car elle peut, elle peut soit vous faire du bien, soit vous faire du mal. Alors peut-être vous dites, mais comment la parole de Dieu peut me faire du mal? Je vais en venir. Tout d'abord, la parole de Dieu nous fait du bien. Pourquoi? Parce qu'elle nous enseigne ce qu'il faut faire pour rétablir la relation brisée avec Dieu. C'est ça le but de la Bible première. C'est qu'en Adam, la relation avec Dieu a été brisée, et en Jésus-Christ, elle a été rétablie, et on peut à nouveau parler directement au Seigneur. C'est une relation d'amour. Et en ça, la Bible va nous faire du bien. Elle va nous faire beaucoup de bien. Cette parole de Dieu, cette épée nous révèle qui est Dieu et ce qu'il a fait pour que nous soyons dans la paix. Elle nous dit également que nous devons nous repentir de nos mauvaises voies et que nous devons accepter Jésus-Christ comme sauveur pour être sauvés. En cela, la Bible nous fait du bien. Mais, je suis désolé pour ce petit mais allons-y, double tranchant. Mais si nous faisons le mal, alors que nous avons été avertis par sa parole de ne pas le faire, je suis désolé, cela sera retenu contre nous. Et en ça, en cela, la parole peut nous faire du mal. Parce que si j'ai la connaissance, et que je ne respecte pas cette connaissance, Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu n'est pas méchant. On est d'accord, il n'est pas méchant. C'est pour ça qu'il écrit ces lettres. Justement, pour dire attention, attention. Tu es sur une mauvaise voie, attention, repends-toi. Parce que si tu ne te repens pas, justice sera faite. Mais attention aussi, on n'est pas dans le faire, on est dans l'être. Être en Christ. C'est-à-dire, si tu as l'impression que tu n'arrives pas à faire toutes les choses, ne sois pas désespéré. Sois en Christ. Abandonne-toi dans ses bras. C'est ce que je fais de plus en plus. Parce que c'est vraiment bizarre, mais être en Christ, c'est vraiment, tu lis ta parole et tout, et tu dis, mais Seigneur, guide ma vie. Seigneur, dirige-moi. Là je vais rentrer dans quelque chose qui est difficile pour moi. Eh bien, aide-moi. Je veux être en toi. C'est toi qui vas faire les choses, c'est plus moi qui vas faire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. C'est compliqué à expliquer, mais vivez-le, c'est simple à vivre, je dirais. Dieu a expliqué, simple à vivre, juste prie et dis, Seigneur, je ne veux plus être dans l'activisme, je veux être en toi. Aide-moi à être en toi. Et donne-moi la certitude que je vais être sauvé parce que je suis en toi. Ainsi, la Bible est une bénédiction pour celui qui la met en pratique, et elle devient malédiction pour celui qui, en connaissance de cause, fait le mal, qui ne condamne pas. Là aussi, c'est important. Parce que, comme on dit l'apôtre Paul, il dit, je fais le mal que je ne voudrais pas faire, et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais faire. Mais du coup, là, il est en train de condamner les choses. Donc, dans son état d'esprit, il est bon, il est en Christ. Il dit, mais Seigneur, retire-moi de ça. Là, je suis en train de parler de ceux qui font le mal qui est annoncé dans la parole de Dieu, qui disent, amen, je suis content. Voilà. Je sais que dans la Bible, c'est marqué ça, j'en ai rien à faire, je suis content de le faire. Voilà. Et là, ça devient double tranchant, et là, ça devient malédiction pour vous. D'accord ? Bon, que nous restions toujours dans l'encouragement. Hein. Dieu est là pour vous encourager. Si vous repartez de là en ayant peur pour votre salut, en disant, ben mince, dans la Bible, il y a marqué, tu pardonnes, et puis j'ai pas pardonné. Ouais, mais si tu as déjà le remords et que ce pardon, il est en cours, tu es sur la bonne voie. Voilà, une fois de plus, il ne faut pas jeter la mauvaise condamnation. La mauvaise condamnation, c'est que vous êtes sur le bon chemin, et puis il y a le diable, le diviseur qui est là, puis qui n'arrête pas de te condamner. Voilà. Tu es peut-être accro à quelque chose, et tu n'arrives pas à sortir de ce truc accro. Et Dieu n'est pas en train de te dire que tu iras en enfer, non. Il dit, fais-moi confiance. Continue à prier, continue à être en moi. Moi, je suis là, t'es dans mes bras et je te conduis là où il faut être. Deutéronome 30, 19, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis la vie afin que tu vives. Voilà, cette épée à double tranchant, elle est là. Tu as devant toi la vie et la mort, choisis la vie. Tu es libre de choisir. Donc si tu es libre de choisir, c'est-à-dire que si tu choisis la vie, c'est bon, fais confiance à Dieu. Dis juste, je choisis la vie, je choisis de te suivre, Seigneur, viens à mon aide. Voilà. Et si tu as l'impression de ne pas y arriver, c'est bon signe, c'est que Dieu est en train d'utiliser tes faiblesses pour le glorifier. Et celui qui se croit tellement fort et meilleur que les autres et qui va venir se vanter au micro en disant tout le monde, faites comme moi, il y a un problème quelque part. Ne croyez pas, en Matthieu 10, 34, 36, encore un passage un peu difficile, mais ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Dans une même famille, la parole de Dieu peut diviser. Et je vais prendre juste un exemple, celui d'un musulman qui se convertit en Algérie, et qui d'un coup toute sa famille se met contre lui. Je ne sais pas si vous avez déjà vu Dieu n'est pas mort, mais on a cet exemple d'une jeune fille qui choisit de suivre Jésus-Christ et sa famille qui se met contre elle. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin. On va continuer. Apocalypse 2, 18. À l'ange de l'église qui est à Thyatire, écrit : ainsi parle le Fils de Dieu. Celui dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds semblables à du bronze précieux. J'ai déjà parlé des pieds, on va se concentrer sur les yeux qui sont comme une flamme ardente. Là aussi, beaucoup de symboles. Les yeux de Dieu sont comme une flamme ardente. Les flammes d'une bougie servent à éclairer les ténèbres. Elles servent à voir les choses. Sans flamme, on ne voit rien du tout. On peut faire n'importe quoi dans le noir. D'ailleurs, petite blague, souvent on dit quand il ne reste plus qu'une part, éteignez la lumière, comme ça vous prendrez la part. Parce que la politesse, c'est toujours de laisser la dernière part. Voilà, mais quand on éclaire, quand on est dans le noir, on fait n'importe quoi. Mais quand il y a la lumière, on voit les choses. Et une flamme ardente, c'est encore plus qu'une flamme, elle éclaire encore plus. Donc vraiment, les yeux de Dieu, ils voient tout en fait. C'est ça que ça veut dire, une flamme ardente. Ils voient vraiment tout ce qui se passe. Rien n'est caché à Dieu. Dieu connaît toute œuvre, bonne ou mauvaise. 1 Corinthiens 4, 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Le fait que Dieu voit tout doit être rassurant. Voilà, parce que là aussi, il peut y avoir de mauvais cocos qui utilisent ça pour faire peur aux gens. Voilà. L'objectif, c'est d'être rassuré. Dieu, il te voit là. Alors, je parle encore des chrétiens des premiers siècles, mais il te voit dans cette cache. Il sait toute la souffrance que tu as parce que dans quelques instants, tu vas mourir mangé par des lions. Sois rassuré, je te vois, je sais. Je sais dans quelle situation tu te trouves actuellement. Ça, il l'adresse à chacun d'entre nous. Et je vais venir t'aider. Mais n'utilisons pas ça pour dire, comme on fait aux enfants, attention, si tu as fait une bêtise, Dieu t'a vu, il va te condamner. Arrêtons ces bêtises. Arrêtons. Dieu, ce qu'il veut, c'est le meilleur pour chacun d'entre nous. Il ne faut pas utiliser ce texte pour faire peur aux enfants, pour faire peur aux gens en leur disant, bah, tiens, dès que tu feras une mauvaise chose, voilà, tu iras au ciel et puis Dieu va te condamner. Et si tu crois en Jésus-Christ et que tu le reçois comme ton Seigneur, tu es sauvé. Voilà. Voilà, faisons attention. Prenons ce texte comme une exhortation. Tu es dans le découragement, Dieu le voit. Tu vis ceci, Dieu le voit. Alors prie, mais Dieu le voit, Dieu va prendre soin de toi. Pour reprendre l'exemple de moi tout à l'heure, ben, j'étais pas bien, ben, Dieu a vu toute chose, il m'a amené dans ce groupe de maison, et puis hop, après c'est bon, j'ai redémarré. Donc prenons vraiment ça comme quelque chose de bon. Dieu est bon. Je continue, parce qu'après j'ai des questions trop longues. Apocalypse 3, verset 1, à l'ange de l'église qui est à Sardes écrit, ainsi parle celui qui a les sept esprits de Dieu et les sept étoiles. Je vais être court, une fois de plus, sept, ça veut pas dire qu'il y a sept Saint-Esprits. Ok, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit, une fois de plus, il est parfait. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a promis à ses disciples d'envoyer le Saint-Esprit. Acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à vivre notre relation avec Dieu. Dieu nous a envoyé son Esprit afin de nous aider à vivre dans ce monde et à surmonter les épreuves de ce monde pour le glorifier. Je ne vais pas aller plus loin. On continue. Apocalypse 7, verset 7, 3, 7, pardon. À l'ange de l'église qui est à Philadelphie, écrit, ainsi parle le Saint, le véritable, qui tient la clé de David, qui ouvre et nul ne fermera, qui ferme et nul ne peut ouvrir. La clé de David fait référence à Ésaïe 22, 22. C'est la clé du roi David. C'était la clé de sa cité qui était Jérusalem. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle aussi la Jérusalem céleste. Ça ne veut pas dire que le paradis, ça sera la Jérusalem actuelle. Sinon, ça va être un peu compliqué d'être des milliards et des milliards juste dans cette petite Jérusalem. Il y a un symbole derrière. Jérusalem, c'est la ville sainte que Dieu avait donnée. Et cette clé est aussi symbolique. C'est fort, ce symbole d'une clé qui ouvre et qui ferme. Jésus peut ouvrir ou fermé. Ainsi, c'est Jésus qui décide d'ouvrir les portes du paradis ou de les fermer. Dit autrement, c'est Jésus qui décide qui va au paradis et qui n'y va pas. Et si nous avons confessé notre foi en Jésus-Christ, nous ne devons pas être inquiétés. Jésus a ouvert cette porte pour toi. Et le diable ne peut plus fermer cette porte si Jésus te l'a ouvert. Avec ça, vous allez vivre autrement. Dieu détient la clé du paradis. Jésus la détient. Alors ne sois pas dans la peur. Ne fais pas de cauchemar en te disant « Mince, je vais peut-être aller en enfer, je vais faire ci avant, je vais venir. » Non. Sois dans la paix. Sois dans la paix. Jésus a cette clé. Une fois qu'il l'a ouverte, même toi, tu ne peux pas la fermer. Enfin, si tu vas la fermer en allant contre la volonté de Dieu. Mais je veux dire, si tu es en Christ, tes œuvres ne peuvent pas fermer cette porte. Je le dis bien, si tu es en Christ, confesse que Jésus est ton sauveur et que tu, de tout ton cœur, tu veux vivre en Christ, tes œuvres ne peuvent pas fermer cette porte. Maintenant, si tu n'es pas en Christ, cette porte est fermée, c'est autre chose et tes œuvres peuvent te condamner. Mais si tu es en Christ, sois dans la paix. Sois dans la paix. Apocalypse 3, 14, à l'ange de l'église qui est à Laodicée, écrit « Ainsi parle l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. » Amen veut dire « Ainsi soit-il. » Lors de la création du monde, Dieu dit « Et les choses furent. » La parole de Dieu est créatrice. De plus, Jésus a été le témoin fidèle et véritable de la création. Il existe de toute éternité. Et là, c'est important, pour nous c'est tellement évident, mais pour les premiers chrétiens qui ont vu Jésus, ils pourraient se dire que Jésus a commencé à exister lorsqu'il est né sur terre. Mais non, pas du tout. Jésus a toujours été là, il est le témoin fidèle. Il n'a pas eu de commencement, il n'a pas eu de fin. Voilà. Et ça, c'est important pour les chrétiens du premier siècle. Il est le véritable. 1 Chronique, versets 29, 11 à 12. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Vous voyez, l'Apocalypse qui est dans le Nouveau Testament redit des choses qui ont déjà été dites dans l'Ancien Testament. Dieu est au-dessus de tout. Il a tout fait. Quelle consolation de savoir que notre Dieu est au-dessus de tout. Quoi qu'il puisse nous arriver sur cette terre, on a un Dieu qui est souverain, il a tout. Ça veut dire que si je me trouve dans une situation désespérée et que Dieu décide de me sauver, il le fera. Quelquefois, Dieu permet la mort par un des martyrs. Et cette mort des martyrs, rappelons-le, a été une vie parce que ces martyrs sont vivants, mais ont permis à d'autres de croire en Christ. Et tout ça, on ne le détient pas. C'est ça aussi que ça veut dire. Il est tout, il est l'amène libéral. Mais faisons-lui confiance. Les chrétiens des premiers siècles, voilà, ils vont rentrer dans cette arène et ils vont mourir. Voilà. Ils auraient bien souhaité être vivants, ils auraient bien souhaité, comme Daniel, hein. Ils la connaissaient, cette histoire de Daniel, des pauvres. Peut-être que même tout jeune, on leur a raconté cette histoire de Daniel sauvé des lions. Et bien là, non. Là, non, ils vont être mangés. Mais ils savent que Dieu est au-dessus de tout ça. Et que s'ils vont maintenant mourir et être mangés, non seulement ils seront vivants en Christ, mais Dieu utilisera tout ça pour sa gloire. Et il l'a utilisé pour sa gloire. Car nombreux sont ceux qui se sont convertis grâce au martyrs. Moi, je fais souvent cette prière à Dieu, évite-moi d'être martyr. Mais bon, si c'est ta volonté, qu'elle soit faite, mais je ne désire pas trop. Mais voilà, c'est Dieu fait toutes choses et il faut l'accepter. à travers ces sept lettres, Jean nous révèle sept caractéristiques de Jésus, afin de nous exhorter à le suivre, exhorter à nous faire du bien, à être encouragé, à vouloir y aller. Et vous voyez, ces premiers chrétiens, certains vont aller dans les arènes en chantant, en ayant vraiment un punch qu'ils n'auraient pas pu avoir sans l'aide de Dieu. Soyons convaincus. Hein. Si Dieu n'était pas avec eux, rien de tout ça serait passé. Et est-ce qu'il a fait de grand pour ces gens? Je pense qu'il peut le faire pour nous ici sur Terre. Jésus, je fais le résumé du coup maintenant de ces sept lettres. Jésus est celui qui est au-dessus des hommes et des anges. Il est la vie. Il agit à travers la Bible. Il connaît le cœur de tous les hommes. Il nous a envoyé son Saint-Esprit. C'est lui qui ouvre les portes de la Jérusalem céleste. Et il dit les choses et elles arrivent. Et bien, moi, une fois que j'ai écouté tout ça, je suis beaucoup plus exhorté et dans la joie que certaines personnes qui utilisent ces lettres pour me faire culpabiliser sur plein de choses. Et vous voyez la façon de l'Apocalypse, de le lire aussi d'une façon horizontale. Moi, je n'ai eu que des prédications verticales sur ces lettres de cette Église. Je n'ai jamais eu de choses comme ça de toute ma vie. J'ai que eu des choses comme ça, puis à la fin je regardais ma vie, est-ce que je suis bien, quoi. Et puis je me sentais mal, et puis je n'avais plus l'Apocalypse. Mais voilà, Dieu est amour. Nous verrons dans une prochaine prédication que Jésus n'utilise pas ses caractéristiques de qui il est pour condamner le monde, mais pour le sauver. Comme le dit Jean 3:17, je ne suis pas venu dans le monde pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par moi. Est-ce que vous croyez ceci? Prions. Seigneur, béni sois-tu. Je suis tellement heureux, Seigneur, d'avoir étudié, fait cette prédication sur ces sept lettres, parce que j'en ressors encore plus fort, plus exhorté. Je ressens encore plus ton amour. Oui, tu es ce Dieu si merveilleux. Tu ne me condamnes pas, mais tu me prends dans tes bras. Et je suis là, quelquefois je pleure sur mon sort parce que je n'ai pas envie de ressembler à ceci, à cela, et je pleure, et tu me prends dans tes bras et tu me dis, je t'aime, ne crains pas, crois seulement. Alors Seigneur, aide-nous à nous relever. Et même si nous sommes découragés pour ceci ou pour cela, donne-nous l'occasion de proclamer ton nom là où nous sommes, dans ma famille, dans mon travail, dans mes loisirs, quand je fais mes commissions, quand je suis chez le médecin, quand je suis n'importe où. Aide-moi, Seigneur, à ne pas avoir peur d'annoncer ton évangile. Et même si l'État se referme, et même si notre laïcité n'est plus une laïcité, mais un monde où on te rejette, ben, Seigneur, que nous ne te rejetions point et que nous proclamions ton nom. Amen.